avec quoi prendrais-tu l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, tout homme qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens. La femme répliqua, je n'ai pas de mari. Jésus reprit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. La femme lui dit, Seigneur, je le vois, tu es un prophète. Alors, explique-moi. Nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer, c'est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi. L'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, moi qui te parle, je le suis. Là-dessus, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, que demandes-tu? Ou bien, pourquoi parles-tu avec elle? La femme laissant là sa cruche revint à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Et ils sortirent de la ville et se dirigeaient vers Jésus. Pendant ce temps, les disciples l'appelèrent, Rabbi, viens manger. Mais il répondit, pour moi j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se demandaient, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui se dorent pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Il est bien vrai le proverbe, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas pris de peine. D'autres ont pris de la peine, et vous, vous profitez de leurs travaux. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui avait rendu ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant. Nous l'avons entendu par nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. »
Acclamons la parole de Dieu. Que cet évangile efface nos péchés. Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Une fois que je peux avoir des vacances, j'ai prêché sur la terre, vous avez fait ça, mais vous avez pris la lecture brève, la lecture, c'était la normale, non? Là c'était la longue, j'en fallait pas. Nous on en réclame encore, impassable avec la parole de Dieu, formidable. Et alors, voyez bien, quand la providence est bonne pour nous, nous qui avons médité le sacrement de mariage l'après-midi, quand Jésus dit, il va au bord du puits et il trouve la Samaritaine, la première rencontre de Jésus avec la femme. Et dans toute écriture, à chaque fois qu'il y a une rencontre au bord du puits, c'est une rencontre spontanée. Il y a 5 rencontres au bord du puits dans l'Ancien Testament. De même qu'il y a 5 puits. Au mystère du sacrement de mariage, Donc il y a cinq modalités pour l'union de chair d'une manière humaine par l'eau. Et Jésus dit à la Samaritaine, j'ai eu cinq fois. Comme c'est curieux, quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose. Vous savez, en compte de bord du puits, la première fois qu'on voit quelqu'un qui tombe amoureux dans l'Ancien Testament, c'est le bord du puits. Jacob est amoureux de Rachel. C'est amoureux. Coup de foudre. Premier coup de foudre, c'est au bord du puits. Rachel qui voit les chameaux. Jacob. Rebecca, c'est au bord du puits. Oui, Rebecca, c'est au bord du puits. D'ailleurs, elle donne beaucoup de chameaux en dot, c'est-à-dire à Isaac pour le mariage. Il descend de son chameau pour rencontrer son épouse. Le chameau, c'est l'orgueil. Hein. Si vous voulez rencontrer l'autre, il faut descendre de l'orgueil et être humble. À ce moment-là, la rencontre d'amour est possible. Mais Jésus, là, et puis il y a toutes ces rencontres au bord du puits. Moïse rencontre sa femme au bord du puits. Pas jamais le pied. C'est aussi dans le livre de l'Exode. C'est toujours au bord du puits. Pourquoi? Parce que le puits est profond. Le monde est sec. Et il faut aller dans la profondeur de l'amour pour faire que ce monde soit vivable. Mais de l'amour, d'amitié, c'est l'amour qui va jusqu'au bout, jusqu'au incarné, quoi. Et Jésus, là, rencontre, donc vous voyez bien, une femme, il rencontre la femme. C'est ça qui est extraordinaire avec Saint Jean, l'évangéliste, c'est que Saint Jean, autant que vous voyez dans Saint Marc, Jésus est toujours avec des foules, toujours, ou avec des apôtres. C'est l'évangile de Saint Marc, c'est l'évangile de Pierre, c'est l'évangile de l'Église, c'est l'évangile de la communauté, c'est l'évangile du peuple de Dieu. L'évangile de Saint Marc, c'est l'évangile de Saint Jean, lui, c'est une rencontre personnelle avec le Christ. Et tout l'évangile, c'est uniquement des rencontres personnelles. Jésus rencontre Nicodème, Jésus rencontre la Samaritaine, Jésus rencontre Marie à Cana. Enfin, la grande rencontre avec Marie Camoufle, la première, la rencontre de Jean-Baptiste, la rencontre, c'est tout des rencontres. L'évangile de Saint-Jean, personnel. Pas du tout pareil, l'évangile de Saint-Marc, l'évangile de Saint-Jean. Il rencontre la femme. C'est quand même. C'est doué ça. Hein? Et Saint-Jean, il était jeune, alors quand on est jeune, on voit toujours les choses à partir d'expériences personnelles. Saint-Marc était jeune aussi, Saint-Marc était bien. Mais on sent que c'est un disciple de Pierre. Alors Pierre dit, c'est la communauté. C'est le pape, ça. Mais la grandeur du pape. Alors, donc, Jésus rencontre cette femme, et cette femme est réduite à la corvée d'eau. Elle a eu cinq maris. Ça, apparemment, ça n'a pas marché, à cinq. Et elle est avec un autre, tellement désespérée, l'amour est échec sur échec. Et elle est avec un type, c'est pas son mari. Hein. C'est pas son mari. Et en plus, c'est une femme qui est importante, on le voit bien, on sent que c'est une femme qui a de la noblesse, de la grandeur, de la générosité, de l'éducation. Mais l'échec dans l'ordre de l'amour a mis cette femme dans un état de désespoir et en même temps dans un état de mépris. Elle est méprisée. Elle est réduite à la corvée d'eau, à l'esclave. Et donc, on voit que cette femme est complètement désespérée. Elle ne croit plus à l'amour. Elle ne croit plus à l'amour. Elle est réduite à la corvée d'eau. Et les premières rencontres avec les hommes, vous savez, qu'est-ce que tu fais là? Oh, les juifs, donne-moi à voir, qu'est-ce que c'est que ça? Et on voit qu'elle ne croit plus à l'amour. Et relisons cet évangile de la rencontre de Jésus avec la femme qui a perdu espérance et qui ne croit plus à l'amour, le cœur de la femme. Comment Jésus va réveiller le cœur de la femme qui croit que c'est fini, que l'amour pour elle n'est plus possible avec l'homme. Jésus réveille le cœur de la femme. Alors, on ne va pas reprendre tout l'évangile, vous comprenez? Non. Mais quand même, je voudrais au moins noter la fin. La fin, c'est qu'à partir de ce moment, c'est l'évangile de la pastorale, pour réveiller le cœur. La pastorale, la technique pour réveiller le cœur, quelqu'un totalement désespéré. Il n'y a plus aucun horizon. C'est l'adolescente parfaite. Qui a échoué tous les années. Elle n'a pas passé la deuxième épreuve. Mais je vous assure que quand on lit ça tranquillement à une prostituée, on en fait souvent, mes frères aussi font l'expérience, elle pleure, toutes elles pleurent. Je me rappelle la dernière fois que j'ai fait, j'en rends pas tous les jours. Hein. Jamais. Je vous rappelle, je vous jure, c'est embêtant. Dans ma grotte, ou dans une montagne, en général, c'est dans l'or qu'elle traîne. Bon. Mais c'est très très curieux. Cet évangile-là, quelqu'un qui livre son corps, qui ne croit plus au mariage, ne croit plus à l'amour, bah, c'est un peu le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, l'amour n'existe plus, on n'y croit plus. Alors il ne reste plus qu'une seule chose. C'est le préservatif. C'est la seule solution. Et si le pape n'est pas d'accord, c'est un homicide. Mais oui, l'homicide, s'il vous plaît. Jésus, lui, il réveille l'amour dans le cœur de l'homme, l'amour dans le cœur de la femme. Parce que sinon, le monde est invivable. Et comment fait-il que l'amour disparaisse comme ça, de manière si radicale, si universelle, que Jésus donne la clé et il dit c'est parce qu'on ne suit pas le seul commandement du Père. Et ce que le Père veut, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà ce que veut le Père. Et ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Alors là, c'est très fort. C'est très extraordinaire ce que dit Jésus à la Samaritaine. C'est très étonnant. L'adoration en esprit en vérité, qu'est-ce que c'est? Qui peut me dire? Qui peut me dire que c'est que l'adoration est très élevée? Parce que quand même, c'est tellement important. Vous voyez, il y a l'Esprit Saint a donné 10 grands commandements par la Torah à Moïse, le Christ a donné 2 commandements, l'amour, c'est l'amour du prochain dans l'homme seul, et le Père ne donne qu'un seul commandement. Il y a 13 commandements pour le chrétien. Et le Père demande de vivre de la grâce. Comme dit Saint Jean, chapitre 16, 15, que le commandement du Père est vie éternelle. Et ici, à nouveau, le commandement du Père, vie éternelle, la grâce, c'est quoi? C'est d'adorer en état de grâce, vie éternelle, en esprit et en vérité. Comment est-ce qu'on fait pour adorer en esprit, en vérité? C'est le seul commandement du Père. Et donc, il y a dans ce commandement, si on est fatigué par les 10 autres commandements, par les 2 commandements du Christ, qu'on a perdu l'espérance et qu'on pense que c'est plus possible d'aimer ni Dieu ni son prochain. Et quant aux 10 commandements, n'en parlons plus. La tempérance, l'humilité, la religion, ici et là, les 10 commandements, l'honnêteté, c'est plus possible aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Mais gros, est-ce que tu peux vivre dans le monde d'aujourd'hui sans faire quelques mensonges diplomatiques, hein? Bien sûr, on peut, parenthèse. Mais il y en a, je pense, que c'est pas possible. Alors, il ne reste plus qu'une seule solution. C'est respecter l'unique commandement dans lequel tous les autres sont contenus. Adorer en esprit et en vérité. Et voilà ce qu'il dit à la Samaritaine. Il dit ça. Il dit ça à chaque fois que j'adore le Père en esprit et en vérité, en état de grâce. En état de grâce, plénitude de grâce. Vous traduisez, comme la pleine de grâce le faisait. Quand on adore en esprit en vérité, c'est plus moi qui adore. Un petit caca qui adore, c'est pas une adoration en esprit en vérité. Je suis un petit caca, moi. Alors, il faut que ce soit comme Marie. Il faut que ce soit Marie, pas de Père Coq, de Saint-Maximilien Coq. Tout entier l'Immaculée, tout à travers moi. Moi, je disparais pour ça, l'Immaculée qui, dans sa plénitude, cet océan de grâce, cet océan de sainteté, cette immensité, cette intensité de tension, de dépendance par rapport à Dieu, adore Dieu par-dessus tout. Et je donne la permission à l'Immaculée, à la vie éternelle, à la pleine de grâce, d'adorer à travers moi, parce que je vais avoir dans le Christ. Elle a eu cinq maris, celui avec lequel elle est, n'est pas son mari, le seul, le septième, le parfait, c'est le Christ. Dans la foi au Christ, quand j'épouse le Christ par la foi, quand il n'est plus que le Christ me rencontre et le fruit de cette rencontre, c'est qu'il n'y a plus cette plénitude de grâce que vivait l'Immaculée quand elle adorait. Il faut vivre cette plénitude de grâce. À chaque fois qu'on dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce », il faut savoir que cette plénitude de grâce, elle est pour nous, pour adorer, en esprit, en vérité. Et quand l'Immaculée, par elle, avec elle, comme elle, en elle, entièrement, ni plus ni moins, nous nous tournons vers l'adoration, vers le Père. Pour adorer, vous voyez, nous réalisons le commandement du Père, pour refaire avec elle, comme elle, actuellement, réellement, intentionnellement, intensément, intégralement, continuellement, autant qu'il est possible, ce qu'elle a fait quand elle a rejoint le Père dans une unité totale. Alors le Verbe s'est fait. Quand la mère a rejoint le Père, le Verbe s'est fait. C'est pour ça que nous aimons tellement, nous les chrétiens, l'Évangélus. Pour revivre. Donner à l'Immaculée la possibilité, à travers notre sensibilité, notre foi, notre espérance plénière, notre amour pour Jésus, de vivre cette adoration en esprit et en vérité. Mais voilà, il faut que je crois que c'est bien aujourd'hui de mettre le dernier élan du carême de la résurrection dans cette note de l'adoration en esprit et en vérité, le Père. C'est comme c'est facile en plus. C'est drôlement facile. C'est vachement facile d'adorer en esprit en vérité. C'est ce qui est le plus facile. Si moi j'essaye d'adorer, si j'existe, mon Dieu est en train de me créer, je lui donne tout autant que je peux, mais si je suis ratatiné, c'est dur, hein. Faire 7 actes d'adoration par jour à la manière d'Aristote, à la manière de Plotin. Hein. Aristote, il dit il faut 40 ans pour arriver à faire un acte d'adoration. Plotin, un peu moins, parce qu'il passe par la voie de l'intériorité, mais il faut bien une vingtaine d'années, hein, d'après Porphyre. Plotin qui dit ça, ben, vous le savez, ben, oui, mais est-ce que c'est encore un acte d'adoration? C'est pas certain, ce Plotin. Mais est-ce qu'il y a, voyez, mais avec l'adoration chrétienne, c'est dur, je souffre, je mets ma souffrance dans la croix de Jésus, et puis j'offre tout à Jésus, ça, j'adore Jésus en ce temps-là, pour que Jésus fasse le reste. C'est beau, ça, faire ça quand je souffre. Mais c'est pas facile, quand on est crucifié, quand on souffre, de mettre sa souffrance avec joie dans la souffrance de Jésus. Mais l'adoration de l'esprit en vérité, franchement, c'est facile. Et on n'a pas besoin de 40 ans pour l'apprendre. En 15 secondes, on apprend à faire un acte d'adoration en esprit en vérité. Faites une seconde sur le premier mystère de Rosaire, la deuxième seconde sur le rosaire. C'est à l'échelle de Jacob merveilleux. C'est 15 mystères du rosaire, une seconde pour chacun. Une fois que vous êtes dans l'Assomption avec Marie, ça y est, vous dites, voilà, à ce moment-là, l'Immaculée, lorsqu'elle épouse, dans une seule chair glorieuse, le corps ressuscité du Christ, elle est face au Père. Elle est face au Père, comme le Christ est face au Père. Au bout de ces 15 secondes où je suis monté avec 15 mystères du rosaire, je savais que l'Immaculée à travers moi, avec le Christ ressuscité dans l'unité responsable face au Père, elle donne le monde entier, le Christ, l'Esprit au Père et elle-même. C'est ce que nous sommes quand nous adorons en esprit en vérité. Et on reste suspendu là. Voilà ce que veut le Père.
père veut qu'on soit des... Il ne veut pas qu'on soit des gens médiocres. Il ne veut pas qu'on soit des gens parfaits. Non. Parce que si on est des gens parfaits, on ne prendra pas la plénitude de Marie. On dira, ma perfection me suffit. Il faut qu'on soit pauvre, pécheur. Parce que ce moment-là, on préfère que ce soit l'Immaculé qui fasse tout à travers nous. Et celui qui croit que être chrétien, c'est parfait, c'est un menteur. Et j'en sais quelque chose. Nous en savons tous quelque chose. Que nous ne sommes pas parfaits. Alors, c'est bon pour le carême, ça. On n'est pas parfait. Génial! L'Immaculée est là, Jésus nous a sauvés. Les 15 mystères, l'adoration de l'Esprit en vérité. Voilà le grand jeûne spirituel par lequel nous nous préparons à recevoir le mystère de la résurrection. On va demander pendant cette messe de Jésus que la Samaritaine aujourd'hui ce soit nous. On commence à croire à nouveau à l'amour infini que Jésus veut mettre dans notre cœur de manière incarnée dès maintenant et de plus en plus.